j'ai mieux voir. Je continue encore un tout petit mot sur la question de l'orientation dans laquelle on doit entrer dans la retraite. C'est vrai, si on fait une retraite chaque année, on doit être un peu attentif à ce que le Seigneur attend de nous. Donc cet examen de conscience, fait en face du Christ, vous habituez, du reste à ça. C'est pas un examen psychologique, mais un examen divin. Anticiper le jugement particulier pour exercer la manière la plus profonde des vertus théologales. C'est vraiment cela, je crois, que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est que nous comprenions ce que c'est que d'être chrétien. Jésus dit tout le temps, les païens pouvaient faire ça. C'est très fort cette opposition, fait Jésus. Et je crois que nous retrouvons une situation analogue. Parce que nous retrouvons un climat aujourd'hui, au moins en France, en Europe, en Amérique, en Afrique, un peu différent. Fait qu'on est laïcisé. Et laïcisé, c'est pas être chrétien. Je regrette. De sorte que ce que Jésus dit dans sa Matthieu et qui prend une telle force, les païens font de même. Et mes ses amis, les païens font de même. Tout ce qui est, voyez, uniquement humain, il faut, c'est vrai, on doit être attentif à certaines lacunes qu'on peut avoir, certaines difficultés qu'on peut avoir, qu'on consulte des psychologues pour ça. Je crois qu'on doit bien distinguer le domaine psychologique du domaine divin. Les païens, la psychologie, elle est d'ordre païenne, elle n'est pas divine. Et ce que nous cherchons, c'est d'être des enfants de Dieu. C'est ça. Et dans notre monde, je crois tous ceux qui ne cherchent pas à être enfants de Dieu, ils seront balayés. Je crois. Tellement la lutte est forte. Tellement on est en présence d'une montée tellement violente du paganisme. Il faut détecter tout ce qui est païen. Tout ce qui est païen, c'est ce qui n'est pas sacré. L'humain assume le païen. L'humain assume le sacré. L'humain assume le païen par le sacré. Parce que l'être humain est un être sacré. Puisqu'il est fait pour Dieu. Il est orienté vers Dieu. Et par nature, il doit découvrir ce qu'est l'adoration. C'est humain d'adorer. Adorer Dieu et découvrir que Dieu est le créateur. Et découvrir ce qui est chrétien. Ce qui est chrétien, c'est ce qui dépend des vertus théologales. Directement. Et de l'Esprit Saint. Je crois ça très important. Parce que on voit, plus on avance, plus on voit toutes ces confusions. Vous voyez, la confusion de la vérité, de la sincérité, par exemple. Il faudrait les noter, toutes les confusions qui sont dans notre monde aujourd'hui, et qui sont des confusions de fait. parce qu'on ne voit plus avec assez netteté notre finalité, ce pourquoi nous sommes faits. Et si on ne voit pas ce pourquoi nous sommes faits, nous sommes prédestinés à être des enfants de Dieu. Et nous devons tout regarder dans cette lumière. Qu'est-ce qui nous empêche actuellement d'être enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous aide maintenant à être enfants de Dieu? Et je crois que la retraite a cette exigence fondamentale d'avoir cette lucidité en nous. C'est pas commode. C'est une grâce de Dieu. Vous la demandez comme une grâce de Dieu. Ce n'est pas d'ordre psychologique. Le psychologue ne peut rien dire de divin. Rien du tout. Et donc il faut comprendre que nous pouvons avoir des difficultés très grandes au plan psychologique. Aujourd'hui, on le voit bien, parce qu'on vit un moment très difficile. L'éducation comme telle, elle n'existe plus beaucoup. Alors, on a été mal éduqué, mal enseigné. Quand on voit ce qui se passe dans les lieux qui devraient enseigner, qui devraient éduquer, c'est pas très fameux souvent. Parce qu'on n'éduque plus vraiment au point de vue humain, c'est-à-dire adorer Dieu. Apprendre l'enfant à adorer Dieu. Dans sa première éducation. Et une fois qu'on a été baptisé, qu'on est conscient de ce que c'est que d'être baptisé, on doit vivre notre baptême. Les prières du baptême sont extrêmement nettes là-dessus. L'Église nous demande d'être fidèles au don qu'on a reçu. C'est-à-dire d'être enfant de Dieu. Et c'est cela que, en premier lieu, nous devons redécouvrir dans une retraite. Parce que souvent, pendant l'année, on n'a plus le temps. Pendant la retraite, on a un tout petit peu plus de temps à redécouvrir ça dans la lumière de l'Esprit Saint. Et prendre ça comme critère, vous voyez, notre foi, notre espérance et notre charité. Dieu nous l'a donné gratuitement. Tous, nous avons reçu gratuitement la foi. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos qualités. Ça nous a été donné gratuitement. Le baptême nous a été donné gratuitement. Nous ne pouvions pas répondre à ce moment-là, et nos parrains, nos marraines ont répondu pour nous. Mais nous sommes responsables, en face de Dieu, de la croissance, de la foi, de l'espérance et de la charité. On est responsable de cela. Alors, est-ce que nous avons le souci de faire croître notre foi? Est-ce que nous avons le souci de faire croître notre espérance et notre charité? Et ça, c'est nous qui devons le faire. C'est élémentaire, c'est, je dirais, l'exigence première de notre vie chrétienne. Faire des actes de foi, de vrais actes de foi. Pas se contenter de dire oh, je suis dans un milieu de foi. C'est vraiment pas très commode. Il faut rester immobile, ça. Je suis complètement impossible. On va faire comme ça, peut-être. Ça va aller mieux. Faire des actes de foi à l'état pur, tous les jours, en face du Christ. C'est notre devoir élémentaire, puisque nous avons été baptisés. C'est le devoir du baptisé, d'être attentif à la croissance de sa foi, attentif à la croissance de son espérance et de sa charité. Faire des actes de foi, il y a l'acte de foi, dire tout simplement « Seigneur, je crois », c'est le credo qu'on dit le dimanche. Et puis c'est lire l'Écriture. Il faut que le chrétien se familiarise avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Ne disons pas que la parole de Dieu c'est réservée aux curés, c'est réservé aux prêtres, c'est réservé aux religieuses. Non, c'est pour le croyant. C'est pour le croyant. Ne disons pas qu'il faut avoir une connaissance très grande pour pouvoir lire la parole de Dieu. Non. Saint Jean, tout le monde, tout croyant peut le lire. Il ne comprendra pas tout. Et c'est le prof de la foi, du reste. Hein. C'est que ça progresse lentement. Et que lentement, on arrive à découvrir ce que représente cette vérité première qui nous est révélée, qui nous est donnée. L'espérance, c'est plus difficile à découvrir comment nous pouvons croire dans l'espérance. J'ai cherché longtemps. L'espérance grandit par des actes d'obéissance. Celui qui n'obéit plus perd son espérance. Depuis un certain nombre d'années où je cherche cela au point de vue théologique, j'en ai fait l'expérience, je l'ai vu, j'ai constaté que tous ceux qui perdent l'espérance n'obéissent plus, ne veulent plus obéir. Voyez comme il est habile le démon, hein. Il a tué l'autorité paternelle. Et en tuant l'autorité paternelle, il met le monde dans le désespoir. C'est facile à comprendre que la grande tentation d'aujourd'hui, c'est le désespoir. Le nombre de suicides. C'est invraisemblable. Et on comprend. Parce que si on regarde uniquement le point de vue humain, le monde, aujourd'hui, ne sait plus où il va. C'est pas très drôle d'être dans une barque où il y a beaucoup de vent, c'est pas où on va. Un jour ou l'autre, on va tomber sur un rocher, puis on va crever. Il y a ce point de vue-là. Alors, évidemment, lire l'Apocalypse nous donne une grande espérance. Mais c'est pas commun de lire l'Apocalypse. Il faut avoir du temps devant soi. Je lis l'Apocalypse depuis 1930. Et j'ai commencé au début, ça ne me disait pas grand-chose. Mais je savais, c'est le livre de l'espérance. Alors petit à petit, quand on lit l'Apocalypse, ça vous donne une très grande espérance. Mais c'est le seul livre de l'Écriture où il est dit « Bienheureux celui qui l'écoute et qui le lit. » Et aucun chrétien ne lit. On est vraiment des imbéciles. Alors qu'il est dit « Bienheureux celui qui le lit et qui l'écoute. » Alors, Jésus nous avertit. Est-ce que tu as lu l'Apocalypse? C'était mon livre. Révélation de Jésus-Christ. Vous croyez que Jésus-Christ a donné cette révélation pour que ça reste dans un livre? Non, c'est pour nous. Et je dirais, l'Apocalypse n'a jamais été autant pour nous que maintenant. Ça, c'est une vérité de l'Apocalypse. Hein? Parce qu'on est plus proche du retour du Christ que ceux du XVIIe siècle, que ceux du XIVe siècle. C'est pour ça que les événements se précipitent. Plus on s'approche du terme, plus ça va vite. Il y a un signe qu'on s'approche du terme, c'est la rapidité. Et c'est pas commun de la rapidité, hein. Ça bouleverse pas mal de choses. On voudrait être à notre rythme, que ce soit passé. Mais non, les choses vont très vite, très vite. C'est la rapidité dans laquelle on est précipité dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Et ceci pour montrer que nous avons plus besoin que jamais de lire l'Apocalypse. Alors il faut accepter au début C'est un très bon acte d'humilité de ne pas comprendre grand-chose. Mais comme il est dit dans l'Apocalypse qu'on doit manger le petit livre, et quand vous mangez, hein, vous savez pas très bien ce que vous mangez de temps en temps. Alors, si vous ne voulez manger que ce que vous savez absolument, ce que vous savez manger, alors vous avez tout de suite votre régime. Très bien. Mais c'est pas très commode quand on est dans une communauté, n'est-ce pas, de pouvoir avoir chacun son régime. Il faut accepter de lire l'Écriture quand elle ne nous dit plus rien. On dit à quelqu'un qui est faible, mangez même quand vous n'avez aucun goût. Mangez par raison. Et on mange par raison. J'ai pas soif ce soir, j'ai pas faim ce soir, je veux pas manger. Mais mangez, parce que vous aurez de moins en moins faim. C'est la même chose au point de vue surnaturel. Lisez l'Écriture. Ça nourrit notre foi et l'Apocalypse nourrit notre espérance. Et concrètement, l'obéissance nous fait nous appuyer sur la toute-puissance du Père. Et c'est pour ça que l'obéissance, qui nous donne le sens de l'autorité du Père, nourrit notre espérance. De façon très étonnante. Et alors, la charité se nourrit par l'Eucharistie. Les visites, l'adoration auprès de Jésus dans le tabernacle. Passer du temps auprès de Jésus dans le tabernacle. Même si on ne sait rien dire, ça n'a pas d'importance. Jésus connaît tout ce que vous avez dans votre tête, vous savez. Et du temps. C'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu, c'est du temps. C'est ce que dit le Père de haut avec beaucoup de force. Il dit, ne cherchez pas uniquement des moments de grande ferveur. Non. Acceptez ce côté très humain, terriblement humain, qui fait que, quelquefois, on s'ennuie. Hein? On s'ennuie beaucoup dans notre vie. Alors s'ennuyer pour Jésus, c'est très bien. C'est très bien, on vient là, je suis là pour vous. C'est tout. Alors, autant que possible, on essaie de l'employer le mieux possible, c'est sûr. Non, mais c'est surtout d'aller ce temps auprès de Jésus dans l'Eucharistie. Il est là pour nous. Bon, s'il est là pour nous, on doit essayer d'être là pour lui. Ça fait partie d'une politesse élémentaire. Oui, ce n'est rien. Mais dans une retraite, je vous en supplie pour faire une retraite sérieuse. Et c'est important. C'est peut-être la dernière que vous faites. Possible. C'est bon. Ça nous encourage. C'est peut-être la dernière que vous faites. Alors, vous consacrez ce temps à Dieu. Vous consacrez ce temps à Jésus. C'est merveilleux. Il est heureux de ça. Ça, je vous affirme. Faire une retraite de 5 jours, ça fait plaisir à Jésus. Ça lui fait plaisir. Parce que vous lui donnez ce temps. Même si vous n'êtes pas très disposé, ça n'a pas d'importance. Vous lui donnez. Puis vous essayez de l'employer le mieux possible. En face de Jésus, faites cet examen de conscience au niveau des vertus théologales. Et n'oubliez jamais de le faire à ce niveau théologal. Parce que tout vous poussera à le faire à un autre niveau. Un niveau de savoir si vous réussissez bien, si ça va bien, si vous êtes heureux, si vous avez de la joie. C'est secondaire, ça. Pas ça qui est important. C'est important, est-ce que votre foi grandit? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez pour que votre foi grandisse? quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore de la foi ? Jésus nous a dit ça pour nous faire comprendre que c'est important pour nous d'être des croyants ardents. Des croyants qui en veulent. Et qui, pour eux, la parole de Dieu est toujours neuve. Parce qu'elle est vivante. Elle est toujours neuve. Ne disons jamais, quand on lit l'Évangile, « Ah, je connais !» Alors, c'est plus la parole de Dieu. Ce qui est connu par vous n'est plus la parole de Dieu. Ah, tiens. Ce qui est la parole de Dieu, c'est qu'il vous est donné directement par l'Esprit Saint. Maintenant. Pour vous, maintenant. Alors c'est toujours des petits pains frais. Vous avez un peu d'appétit quand c'est des petits pains frais. Un peu plus que quand c'est du pain rassis. Dur. Et quelquefois moisi. Hein. Parce que le vécu est quelquefois un peu moisi. Il n'est pas toujours drôle, l'errance, le vécu. Alors, il faut essayer de vivre de cet instant d'éternité qui est tout le temps là, pour nous, dans la foi. Et ça, c'est merveilleux pour rester fidèle et intensifier notre foi. Et c'est la même chose pour notre espérance. Nous ne devons pas être vaincus. Nous devons, même si c'est très lourd, très dur, si c'est pesant, on est victorieux dans le Christ. C'est ce que montre admirablement l'Apocalypse. Quand on regarde justement cette vision merveilleuse du Christ, du cheval blanc, dont la robe est trempée dans le sang, il vit avec un élan et va de victoire en victoire. C'est ça le propre, je crois, de notre vie chrétienne. C'est qu'on est des victorieux. Pas nécessairement au point de vue des hommes. Pas nécessairement au point de vue des propagandes humaines. Non. Tout ça est tellement extérieur. Mais au point de vue de notre cœur. Jésus nous aime, mais c'est la grande victoire. Être aimé de Jésus, mais c'est la plus grande des victoires. Être aimé de Marie, c'est la plus grande des victoires. Et comprendre ça tous les jours. Jésus nous aime. Il est mort pour nous. Alors une fois qu'on comprend ça, qu'on en vit, notre petit examen de conscience de tous les jours est une anticipation du jugement particulier. Un jour, nous verrons Jésus, face à face, directement. Un jour, nous verrons Marie. Et on peut anticiper, dans la foi, dans l'espérance, et donc, véritablement, être en présence de lui. Et même, encore une fois, faisons ça même quand c'est très rude. Quand on ne sent plus rien et que c'est volontaire, il faut être ceux qui, à travers tout, veulent être fidèles. Alors voyez, je crois que c'est très important, c'est pour ça que je viens de vous le rappeler tout de suite, dès le premier jour, ce soir, avant de vous endormir, ce soir, en face du Christ, auprès de Marie, mettez-vous sous leur regard. Le contact avec eux est direct. Qu'il nous regarde toujours et qu'il nous aime. Alors se mettre sous le regard et là demander à Jésus de faire le point avec vous. Où en êtes-vous ? Et Jésus vous dira, il est pourrait dire, pour nous tous, il est temps de convertir. Chaque retraite est une conversion. Et ça doit être une conversion. Sur tel plan. Avant tout, vis-à-vis des vertus théologales. Mais plus que tout. Parce que c'est cela qui est le plus précieux en nous. Vous savez, quand on a quelque chose de très précieux, on s'intéresse à voir si c'est bien là toujours. Hein. S'il n'y a pas de triangle, de bande, tout ça. Si c'est pas abîmé par le temps. Effectivement, vu ça, parce que ça nous. Ça vaut quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant. Alors on regarde. Et puis essayez d'avoir un regard de prière contemplative. C'est l'exigence de notre vie chrétienne, ça. Vous voyez, pas uniquement réciter des prières. C'est très bien de réciter des prières, mais on n'est pas un moulin à prière. Quand on ne peut pas faire autrement, récitons des prières, le chapelet, le rosaire, très bien. Quand vous êtes en voiture, récitez le chapelet. C'est excellent. Ça vous aide à patienter quelquefois, surtout en ville. Mais quand vous êtes en retraite, au moins une fois par an, pendant quelques jours, demandez à l'Esprit Saint de vous donner cette prière contemplative. Il faut le demander. Une prière qui atteint le cœur de Jésus. Une prière qui atteint le cœur de Marie. Et qui se met dans la lumière du Verbe de Dieu. Et dans la lumière du Père. On aura l'occasion d'y revenir hein, sur la prière et sur l'oraison. C'est ça la prière contemplative, c'est l'oraison. C'est vivre avec une personne. Tandis que dans la pratique, on vit avec tous ceux qui pratiquent. Tandis que dans la prière contemplative, on vit avec Jésus, avec Marie, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Et on demande à l'Esprit Saint de nous apprendre à aimer. Chaque soir, on précisera certains aspects. Très difficile de commencer quand il s'agit de parler de la petite Thérèse. Parce que c'est d'une telle simplicité, c'est d'une telle limpidité, et nous sommes tous des personnes beaucoup moins limpides. Alors il me semble que le noyau qui aide énormément à entrer dans le secret de son cœur. J'aimerais qu'elle puisse vous le dire. Il faut que je m'envoie un petit billet. Petite Thérèse est venue cette nuit, elle m'a dit le secret de son cœur. Alors, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Alors, je ferai attention. Vous pouvez me corriger, j'en serai très heureux. Et tu as dit, c'est par la petite Marthe que je suis entré plus profondément dans la petite Thérèse. Parce que c'était une voix que le Seigneur me donnait, très directe, et qui m'aidait beaucoup. C'est pas tellement les livres. Parce que Marthe, elle avait le privilège, petite visite, hors clôture, mais comme dans le ciel, on est toujours hors clôture. Alors elle pouvait venir comme ça, la visiter et lui communiquer son esprit. 19e, début du 20e et à la fin du 20e. Je crois que l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux est très central. C'est pour ça que nous allons lire ce soir, en le faisant, nous, en tous. C'est la seule manière d'entrer là. Et je pense ça parce que, de fait, quand vous regardez attentivement dans j'entre dans la vie, le carnet de la fin de la vie de Sœur Agnès de Jésus, parole recueillie pendant les derniers mois de notre petite Thérèse. Alors, Sœur Agnès pose la question, je lui demandais de me raconter encore ce qui lui était arrivé après son offrande à l'amour. Elle me dit d'abord, ma petite mère, je vous l'ai confié le jour même, mais vous n'y avez pas fait attention. C'est merveilleux. On verra sur la charité fraternelle de la petite Thérèse. Et des quantités de personnes récitent cet acte sans faire attention. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, on fasse attention. On demande la grâce de faire attention, parce que c'est ça qu'il faut. Alors, comme elle est très humble, Sœur Agnès, en effet, j'avais eu l'air de n'y attacher aucune importance. Et la petite Thérèse continue. Eh bien, je commençais mon chemin de croix. Et voilà que tout à coup, j'étais prise d'un si violent amour pour le bon Dieu que je ne puis expliquer cela qu'en disant que c'était comme si on m'avait plongée tout entière dans le feu. La petite Thérèse, elle aime beaucoup les comparaisons. Elle est sobre plutôt. Elle n'est pas du tout romantique. Là, on voit bien. C'est comme si on m'avait plongé tout entier dans le feu. Elle n'avait pas l'expérience d'être plongée tout entier dans le feu. Mais, ça c'est sûr, on n'a jamais été plongé tout entier dans le feu. Personne d'entre nous. Il n'y a que Saint-Jean qui était plongé dans l'eau bouillante, dans l'huile bouillante. C'est peut-être à cause de ça, tu vois, que son évangile nous plonge dans le feu. Oh, quel feu! Quelle douceur en même temps! Je brûlais d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans mourir. Mourir dans l'extase d'amour, dans la brûlure d'amour. J'ai compris alors ce que disent les saints de ces états qu'ils ont expérimentés si souvent. Pour moi, je ne l'ai éprouvé qu'une fois, qu'un seul instant, puis je suis retombé aussitôt dans ma sécheresse habituelle. C'est merveilleux, hein ? Là, en toute humilité, Thérèse. Elle dit la vérité. Et quand il y a ça dans sa vie, on ne peut plus rien changer. On est fixé. Vous voyez, dit la petite Bernadette. Le regard de Marie, toute sa vie, elle l'a cherché. Quand Dieu nous donne un contact brûlant avec lui, le feu, avec Jésus, avec le Père, ceci marque profondément notre âme dans ce qu'elle a de plus profond. Et c'est indélébile. Mais quand on dit que le caractère du baptême est indélébile, le caractère du baptême touche quelque chose de moins profond que cette grâce, que d'être en contact direct, puisqu'il est pour cela. Il n'est parfaitement en acte que dans cette intimité. C'est là où on doit tous demander à l'Esprit Saint qui nous prenne de cette façon pour qu'il y ait dans notre âme la marque de Dieu. Je crois que nous en avons tous besoin. Et c'est ça qui nous permet d'être fidèles. On est fidèles à l'amour. Et quand on est pris et saisi profondément par quelqu'un qui est notre Dieu, que notre âme est saisie par lui, ça reste tout le temps. Je ne dis pas qu'on le vit tout le temps. Vous voyez, la petite Thérèse vit tellement, aussitôt elle est replongée dans la sécheresse habituelle. Dès l'âge de 14 ans, j'avais bien aussi des assauts d'amour. Elle dit ça un peu plus tard, on se souligne sur Agnès. Ah, que j'aimais le bon Dieu. Mais ce n'était pas du tout comme après mon offrande à l'amour. Ce n'était pas une vraie flamme qui me brûlait. Donc elle reconnaît que tout ce qui est avant est de l'ordre de la disposition. Il y a eu là quelque chose qui a marqué son âme. Ce qui fait qu'à partir de là, au-delà de la sécheresse, malgré la sécheresse, il y avait quelque chose qui durait. Je crois qu'il faut toujours se rappeler ça quand on lit, justement, et quand on veut faire cet acte d'offrande avec elle. Comprendre que c'est le fruit de l'action directe de l'Esprit Saint sur son âme, sur sa volonté, sur son cœur. Oui. Et c'est pas quelque chose qu'on a composé. Quelque chose qui vient de l'Esprit Saint. Pour elle et pour toute l'Église. J'allais presque dire que dans la conduite de l'Église, dans la conduite de l'Esprit Saint sur l'Église, il y a quelque chose de nouveau là. Et si on était très attentif à ça, on comprendrait qu'on ne peut plus vivre comme avant. Même très très merveilleuse là. Alors je vous lis, que vous connaissez, mais la retraite n'est pas faite pour vous faire inventer des choses nouvelles, elle est faite pour vous remettre en acte d'amour vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de Marie. Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. On verra successivement tout ce qui est impliqué dans cet acte d'offrande. Pour découvrir par là le grand secret de Thérèse. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Je désire vous aimer depuis l'âge de 14 ans, elle a ce désir d'aimer. Et même avant, à 3 ans, elle désire se donner tout entier au bon Dieu. Désirer. Et voyez, c'est très fort parce que elle dit pas je vous aime. Elle dit désirer. Saint Augustin a dit avec force, celui qui désire aimer, aime. Et nous ne sommes pas assez persuadés de cela. Et pourtant, c'est cela. Le dernier enseignement du Christ pour nous, c'est le cri de soif. J'ai soif. Même Jésus ne s'arrête pas au vécu de son amour pour le Père. Il le dépasse. J'ai soif. Parce qu'il veut aller toujours plus loin. Catherine de Sienne le dit avec force. Ce qu'il y a de plus grand sur la terre, c'est le désir d'aimer. Alors, le désir d'aimer, voyez, c'est le lien de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est le fruit commun. crois que je le ferai comme un exercice divin. Du don de sagesse et du don de crainte. C'est ça, ce désir d'aimer. Quand on désire aimer, on regarde une personne. Parce qu'on ne peut aimer qu'une personne. Divinement et spirituellement. Donc, c'est la très sainte Trinité. C'est Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Ça, c'est toute l'âme apostolique de Thérèse. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Aime la très sainte Trinité par le cœur de Jésus qui est notre sauveur, qui est le sauveur de tous les hommes. Nécessairement, notre amour prend toute cette dimension. On ne peut pas rester dans une dimension particulière. Je désire accomplir parfaitement votre volonté. Y arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. Désirer aimer, désirer accomplir parfaitement votre volonté, ça, c'est pour l'espérance. Ce que nous avons dit tout à l'heure, l'obéissance est la nourriture de l'espérance et permet à l'espérance de grandir. Et il faut qu'il y ait ce désir de la croissance de notre espérance. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être saint et je sens mon impuissance. Et je vous demande, mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Tout est là. C'est le Christ qui est notre sainteté. Pour que le Christ soit notre sainteté, il faut qu'on désire être saint. Et désirer être saint, c'est désirer accomplir pleinement et jusqu'au bout la volonté du Père. À travers tout, c'est ça qui compte. Et on sait qu'on aura la grâce pour ça. Ma grâce seule te suffit. Hein. C'est une parole qui est dite à Saint Paul à un moment tragique dans sa vie. Ma grâce seule te suffit. Très très exigeant, vous voyez, la conduite de Dieu sur nous. Parce que Dieu veut agir directement et Dieu veut agir en Dieu. C'est-à-dire avec cet absolu de Dieu. Pour ne pas relativiser les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, à notre prudence. Notre prudence, c'est nous. Les vertus théologales, c'est Dieu en nous. Et Dieu n'aime pas qu'on relativise nos vertus théologales à notre vertu de prudence. Et si on fait ça, c'est comme si on voulait avancer en ayant laissé le frein à main. Vous savez ce que ça fait, hein? Ça va du tout. Donc on est une voiture, que vous laissez le frein à main, vous l'avez oublié. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi tellement de chrétiens n'avancent pas? Parce qu'ils n'ont pas le souci de croire dans les vertus de la grâce, de foi, d'espérance et de charité. Qui laisse le frein à main? Il faut être prudent. Il faut faire comme tout le monde. Tout le monde fait ça. On peut pas faire. Les vertus de la grâce nous mettent seuls. Moïse, seul en face de celui qui dit qu'il est celui qui est. Seul en face de Jésus qui dit je suis. Seul en face du Christ qui dit qu'il est le bon pasteur. Qu'il est
finalement résurrection.
Puisque vous m'aimez, vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux. De ces mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. De Thérèse, la Sainte Face, on voit pourquoi. C'est à travers la face de Jésus qu'elle veut que le Père la regarde. Et la regarde que comme ça. Et c'est vrai, le Père nous prédestine à travers la face de Jésus, à travers la blessure de son cœur. Et donc il nous regarde tout le temps à travers la blessure du cœur du Christ. Je vous offre encore tous les mérites des saints. Alors ça, c'est très beau de voir là la petitesse de Thérèse. Je vous offre encore tous les mérites des saints. Sont au ciel et sur la terre, leur acte d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre aux bienheureuses trinités l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Et comme tout ça montre bien la place de Marie dans la vie de Thérèse. C'est exactement ce que dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et pour elle, elle ne pourrait pas faire cet acte si cet acte n'était pas présenté par Marie. Elle ne pourrait pas faire cet acte si ce n'était pas à travers la face de Jésus. Les deux médiations qui sont présentes. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses. Et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Des désirs immenses, elle avait écrit des désirs infinis. Bien, alors la vie immense, parce que infini, on s'est demandé si c'est tout à fait juste. Et les théologiens, alors. Et c'est vrai de dire qu'elle a des désirs infinis. Parce que la grâce, notre grâce, liée à celle de Jésus, nous donne des désirs infinis. Nous avons un désir infini d'appartenir à Jésus. Et de vivre de sa sainteté. Et de vivre de la sainteté de Marie. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout puissant? Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de notre poste. Voyez, c'est aussi très beau la conscience qu'elle a des sacrements. Les sacrements sont là pour remédier à notre fragilité, à nos distractions. Et l'Eucharistie nous donne la présence actuelle de Jésus, sous ce mode particulier qui est un mode sacramentel. Alors, il est normal, quand on aime intensément et qu'on désire aimer, qu'on désire que celui qu'on aime soit présent. Or, il est présent dans l'Eucharistie. Il est réellement présent, substantiellement présent. Peu importe le mode. Quand on aime, ça n'a pas d'importance. Qu'on voit quelqu'un qu'on aime, vous voyez, dans une salle merveilleuse, très belle, ou qu'on la voit dans une grotte, un peu froide. De tout ce qui est personne, hein, qu'on soit seul, qu'on soit tranquille. Qu'il y ait des animaux, c'est pas gênant. Qu'il y ait des brigands, c'est plus gênant. Qu'il y ait des gens qui écoutent, c'est plus gênant. C'est merveilleux parce que on voit la distinction qu'elle fait entre le désir d'aimer. Vous voyez ? Le désir d'aimer. Si un désir d'aimer, on prend tous les moyens pour arriver à intensifier cet amour. Parce que c'est ça le désir. C'est intensifier l'amour. Faire que l'amour que j'ai actuellement grandisse. Parce que je veux qu'il grandisse. C'est tellement grand aimer Jésus. C'est tellement grand aimer la très sainte Trinité. Il faut que ça grandisse. Or, il y a un moyen donné par Dieu qui est l'Eucharistie, la communion. Or, elle sait, quand elle communie, elle avale l'hostie. Donc, la présence eucharistique disparaît. Alors, nous disons tout bonnement, n'est-ce pas ? Oui, la présence eucharistique disparaît pour que la présence profonde, substantielle, qui est par la grâce, augmente. C'est très vrai. Si on le faisait parfaitement, on ne le fait jamais parfaitement. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de communier. On a toujours besoin. Et alors elle le ressent très fort. Alors elle dit ça, vous voyez, au point de vue théologique, c'est curieux, hein. Et déjà, je pourrais faire des petites remarques, là. Mais on n'a pas de remarques à faire. On doit comprendre ce langage d'une petite enfant tout démente, qui n'est pas un langage théologique froid, qui est un langage brûlant du feu dont elle est animée. Puisque elle, cet acte d'offrande, c'est dans cette flamme de feu qui la brûle qu'elle le fait. Alors on comprend que ce feu demeure. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants. Je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous supplie de m'ôter la liberté. Oui, là encore. Alors, il faudrait noter tous les excès de la petite Thérèse. Tous les excès, vous voyez. Très, très intéressant. Parce que là, on toucherait justement le feu. Bien, cette chose très simple que donne saint Thomas quand il essaie de voir ce que c'est que la ferveur. Il dit la ferveur, c'est l'eau bouillante. L'eau bouillante soulève le couvercle de la casserole. On voit Thomas d'Aquin en face d'une casserole qui est au feu et que le couvercle se lève quand l'eau se met à bouillir. Il avait dû remarquer ça quand il était tout petit. Très curieux, ça. Et l'eau goût. Là, vous voyez, si la ferveur, c'est l'eau qui bout, ça dépasse les limites. Alors, voilà les limites. Les limites de l'Eucharistie. Elle est désolée de ne pas être le tabernacle. Et elle est désolée d'avoir des distractions insupportables. C'est insupportable d'avoir des distractions. De ne pas être tout le temps, saisi par la présence de Jésus. Cet excès par rapport au conditionnement humain de vouloir ôte-moi la liberté de t'enfoncer. Ce sont les excès qui peuvent agacer les théologiens. Qui dit excès Et justement, ce n'est plus du tout le langage scientifique propre. Mais si je comprends l'état dans lequel elle est, on ne parle pas de la même façon quand on est brûlant dans le feu, que quand on est assis sur une chaise. Pas tout à fait de la même façon. Quand on est brûlant dans le feu, on crie son amour. Et ça nous donne courage. Alors elle crie son amour, sont des cris, sont des appels. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. Alors retenez l'expression, ça on y reviendra. On ne peut pas parler de la petite Thérèse sans parler de la souffrance. Et la place de la souffrance et de l'amour. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Vous voyez, elle n'a pas été stigmatisée, mais elle a ce désir ardent d'être stigmatisée éternellement. Ce qu'elle est, puisque tous les désirs qu'elle a, le Père lui a donné, comme sa petite enfant bien-aimée. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, et je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour. Ceci aussi, c'est très fort, on y reviendra. Dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autres trônes et d'autres couronnes que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc, en un instant, me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme et hors de ténèbres, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouvelez cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que, les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Marie, François, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, pour la fête de la très sainte.
Notre-Dame de Grâce, 1880.